Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier flash résultat de l'année 2023. On va revenir sur l'actualité peu chargée de ce premier week-end de janvier. Avant d'évoquer les résultats, forcément, meilleurs vœux à tous les auditeurs de Culture Sport et du Flash Sport. On se retrouve pour une nouvelle année 2023 en espérant qu'elle soit chargée de succès pour nos sportifs charentais. On va commencer par le football et la CFC qui avait un match amical. Les Angoumoisins retrouveront le chemin du championnat vendredi prochain à 19h30 du côté de Trélissac. En attendant, les Angoumoisins s'étaient concoctés un petit match amical contre Chevigny, un match disputé au stade Le Bon samedi à 15h face à une belle opposition puisque Chevigny est quand même premier du groupe de National 3 de l'Aquitaine, donc c'était pas non plus un match simple, mais les Angoumoisins sont imposés avec la manière 4-0, une entrée en matière positive. À noter sur ce match la présence des deux nouvelles recrues de la CFC, à savoir Mamadou Girassi, un attaquant de 28 ans qui est joué l'an passé à Cholet, et la présence également de Amadou Koulibaly, ailier droit très rapide, qui lui vient de Bulgarie puisqu'il joue à tout cela. À noter que Koulibaly d'ailleurs a fait partie de l'équipe qui a gagné le titre de National 2 l'an dernier avec le Puy. Donc le match 4-0, ouverture du score juste avant la mi-temps, la 44e minute de Chris Gauthény, 1-0 donc pour les Angoumoisins au repos. En seconde période, c'était en fait 22 joueurs, 11 joueurs en première mi-temps, 11 joueurs en deuxième. En deuxième mi-temps, Thierry Lemaître touche le poteau à la 46e minute et Koulibaly est à l'affût pour pousser le ballon au fond des filets. Donc 2-0 pour la CFC, Koulibaly qui marque au bout de 28 secondes de jeu. Donc c'est plutôt un bon départ pour lui. Et en fin de match, la CFC va corser l'addition avec deux coups francs directs. Le premier marqué par Godfred Bekwe et le deuxième marqué par Thierry Lemaître. Score final 4-0, une entrée en matière plutôt positive pour les Angoumoisins. Il y avait aussi la Coupe de Nouvelle-Aquitaine ce week-end avec 5 Charentais qualifiés pour le 8e tour. On va parler de l'exploit de Ruffec qui s'impose contre Royan au terme de la séance des tirs au but. Il y avait un partout à l'issue des 90 minutes. Donc c'est un bel exploit parce que Ruffec est en Régional 3 tandis que Royan est en R1. On a la qualification de Soyo qui s'est qualifié à Montbron dans le premier derby charentais du week-end. Et on a également la qualification de la réserve de la CFC qui s'impose à Moutier, un match forcément particulier parce que Moutier est entraîné par Frédéric Clément. Il y a également Frédéric Messac dans l'effectif, il y a également Nicolas Dumonté, donc c'était un peu les retrouvailles des anciennes gloires de la CFC. Et donc victoire des jeunes Angoumoisins 2-0 avec des buts de Verlaine et de Vigneron. On a également la qualification de Basso qui s'impose à domicile, et on a également la qualification de l'Alliance 3B qui s'impose au tir au but. Donc tout ce beau monde va se retrouver au 7e tour, un 7e tour qui aura lieu le week-end prochain. On aura le tirage au sort en début de semaine. Il y avait également de la Coupe de Charente, le 3e tour donc de la Coupe départementale phare. Il n'y a pas tous les résultats qui sont tombés sur le site du district, donc je vais donner simplement les résultats qui sont à ma connaissance. Donc Verdi s'impose 3-0 par forfait contre Montignac. Montbron avait battu Puymoyen du coup le 17 décembre 2-1. Fontalfi a battu Confolan B 5-2. Roulé s'est incliné malheureusement au tir au but contre les Portugais du Gonpontouvre 3-1. Chasseneuil bat Brigueuil 3-0. Belair bat Saint-Hilaire de Barbezieux 3-1. Manle s'impose à Sainte-Fraigne 4-2. Linard s'impose à Fléac 6-2. Le match entre Le Roy et Sireuil a été arrêté. Le match entre la réserve de Ruffec et Aigre n'a pas été joué. L'Alliance 3 vont se faire éliminer au tir au but par Brie. Score final de ce match 3 partout. Victoire de qualification de Brie au penalty. Il y a aussi Chazel qui s'est imposé contre Nersac. Ça, c'était le tour d'avant puisqu'il y avait des matchs qui avaient été reportés. Donc, Chazel défiera Montmoreau à l'occasion du 3e tour de la Coupe de Charente. On va parler des filles de Soyo qui reprenaient elles aussi le chemin de la compétition avec la Coupe de France de football. C'était les 16e de finale. Soyo avait un déplacement au Mans, pensionnaire de D2. Victoire de Soyo 5-0, 2-0 à la mi-temps avec notamment des doublés de Stéphanie Bogou, un triplé de Morgan Belkiter qui permet donc à Soyo de s'imposer 5-0. On rappelle que le week-end prochain, Soyo va recevoir Lyon en championnat, donc une reprise de D1 qui s'annonce forcément très compliquée. On va re-indiquer le score du SA15, malheureusement, qui s'est incliné à domicile contre Nevers 26-20. On en a parlé avec Fred dans le SA15 Magatitude juste avant, on a fait le débrief. En handball, c'était le derby charentais. On avait fait une petite interview cette semaine avec Mike Bidorini, l'entraîneur de la CH. Et la CH s'est imposée contre Cognac 20 à 16. Un match avec peu de buts, puisque le score était de 8 à 6 à la mi-temps. Mais les Angoumoisines ont fait l'essentiel face à des Cognacais qui sont toujours à la recherche de leur première victoire. Donc la CH reste quatrième au classement, mais vraiment à l'affût du podium. Et il y aura des matchs importants sur ce mois de janvier. En basketball, reprise malheureusement compliqué pour la couronne basket, hein, en National 3 féminine qui s'incline contre le Stade Rochelet basket 75 à 62. Malheureusement, la couronne est 11e avec 15 points. Malheureusement, 3 victoires et 9 défaites. Et en régional 1, donc en pré-national masculine, la CTC Grand Cognac avait un match de gala à domicile en recevant l'équipe réserve du CSP Limoges. Et malheureusement, c'est Limoges qui s'est imposé 94 à 88. Limoges est premier au classement avec 20 points. Et on retrouve donc la CTC Grand Cognac 5e avec 19 points, mais seulement une victoire de retard sur les 4 premiers. Donc c'est une poule qui est hyper serrée. Enfin, on va parler d'athlétisme pour terminer, puisqu'on va recevoir Clément Anglada dans Culture Sport. Et juste pour évoquer les championnats départementaux de cross qui ont lieu ce week-end à Montreau, il n'y avait pas forcément un grand enjeu, hein, puisque tout ce beau monde se retrouvera le 29 janvier à Ruel lors des quarts de finale régionales de cross qui auront lieu donc à Ruel et qui concerneront toute la zone nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais on peut souligner notamment le bon comportement de Clément Anglada et de Tatiana Leite da Silva, la pensionnaire du CAC, donc de Cognac. Et donc, et ben voilà, une entrée en matière boueuse pour les crossmen charentais qui donc auront rendez-vous le 29 janvier à Ruel. On retrouve tout de suite Culture Sport. On va parler du G2A avec notamment Clément Anglada. On va revenir un peu sur l'actualité du club, ce qui s'est passé l'an dernier, les foulées angoumoisines, le meeting du G2A, et on va parler de cette année 2023. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour avoir un flash sport un peu plus dense. En attendant, bonne soirée à tous.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, bonjour tout le monde, meilleurs vœux, bonne année à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Attitude. Vous êtes dans Culture Sport, votre émission des sports, chacun dit 19h-20h30. Vous pouvez nous suivre sur 98.3 Angoulême, 90.7 pour Nord-Charente, www.attitudefm.com. Bienvenue donc, et nous allons accueillir le G2A Angoulême avec Éric Perrault et Clément Anglada que nous accueillons. Merci d'avoir accepté à notre invitation.
Bonjour, merci et meilleurs vœux.
Merci. Là, tout à fait, la santé d'abord, et c'est le capital essentiel. Christian est avec nous, donc en tant qu'animateur zélé. Bonsoir Christian.
Oui, salut Didier.
Bienvenue.
Ben, merci, et puis meilleurs vœux à tous nos auditeurs pour 2023, en espérant avoir des belles émotions sportives, et puis surtout plein d'émissions hyper intéressantes et hyper enrichissantes à écouter.
Parfait, Christian, je te laisse le soin de poser la première question.
Je voulais évoquer la disparition malheureusement de Gérard Lacroix, qui donc nous a quitté au mois de décembre. C'était un élément important du G2A. Il me semble qu'Eric le connaissait bien, donc j'aimerais qu'Eric nous parle un peu de Gérard, de sa passion pour l'athlétisme, mais surtout de son rôle au G2A.
C'était pas un rôle au G2A, c'était un rôle à l'ancienne ligue du Charente. Gérard, on lui doit, tout le monde, beaucoup, lui doit beaucoup, moi le premier, quand il venait sur Angoulême, à l'époque c'était le SCA, la GSA, etc. Il venait quand on avait besoin de lui, on l'appelait, il était toujours, il répondait toujours présent. Et quand il venait sur le terrain, c'était soit pour les petits, les plus grands, les entraîneurs, etc. Il était ouvert à tout. Et c'était vraiment un type sympathique et un grand professionnel qui nous manquera.
Avant d'évoquer forcément la saison dernière, on est début janvier. Quand on est début janvier, comment ça se passe, Clément, la vie d'un athlète? J'imagine que c'est peut-être un peu, même si c'est vrai qu'en ce moment il fait plutôt doux en termes de météo, j'imagine que c'est peut-être compliqué de s'entraîner. De quoi est fait finalement la vie d'un athlète dans ces périodes de l'année?
Alors ça va surtout dépendre des objectifs. Voilà, en saison classique d'un athlète, c'est une période de préparation, voire un peu de reprise après les fêtes, selon les excès qui ont été faits ou non. Donc là, on prépare pour les pistards, plutôt tout ce qui est salle, etc. Et pour les demi-fondeurs, plutôt une préparation pour la saison de cross qui arrive. Et là, dans mon cas personnel, je sors d'un marathon, donc ça a été plutôt une période de récupération et du coup de reprise après la récupération justement du marathon que j'ai fait début décembre.
Donc le cross, c'est vraiment les périodes estivales. Donc championnat départementaux, combien d'engagés environ pour le G2A? Et est-ce que du coup c'est par différents paliers, c'est-à-dire que les départementaux qualifient pour les interdépartementaux, qui qualifient pour aussi pour une marche supplémentaire? Comment ça se passe?
Alors là, pour les départementaux, on compte à peu près sur une centaine d'athlètes du G2A. Il faut savoir que dans le département, ça représente plus de la moitié des athlètes qui seront, le G2A représente la moitié des athlètes du département qui seront engagés. Donc voilà, ça c'est assez important déjà. Et ensuite, ça qualifie, alors on appelle ça les quarts de finale de cross. Et en gros, les quarts de finale, ça représente toute la zone nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour vous donner une idée, par rapport aux anciennes régions, c'est le Poitou-Charentes, le Limousin et la Dordogne. Donc tous ces départements s'affrontent lors des quarts de finale. Donc cette année, on les accueillera à Ruel. Ce sera le G2A qui organisera ces quarts de finale. Donc ça va être un bel événement en perspective, une grosse organisation, parce que ça représente environ 1000 demi-fondeurs, donc les 1000 meilleurs demi-fondeurs dans toutes les catégories de la région que j'ai citée. Donc il va y avoir beaucoup de monde, des courses de haut niveau. Et ensuite, ça qualifie pour les demi-finales. Les demi-finales de cross, toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc on rejoint la zone sud. Et ensuite, les championnats de France. Donc les championnats de France de cross qui auront lieu cette année à Carré en Bretagne le 12 mars.
Ces quarts de finale de cross donc que vous organisez à Ruel, ce sera quand?
C'est le 29 janvier.
Ça s'enchaîne beaucoup là pour les athlètes.
C'est toutes les 3 semaines en fait. Ouais. Voilà. Des fois ça peut être 2 semaines les autres saisons, mais là c'est 2 départementaux, 3 semaines après quart de finale, 3 semaines après le 19 février les demi-finales et 3 semaines après le 12 mars les championnats de France.
Comment on fait pour se qualifier finalement pour ces quarts de finale? Est-ce que finalement c'est à la place? Comment ça se déroule?
Alors là les quarts de finale c'est complètement ouvert quoi. En gros les quarts de finale on va dire que les courses ne sont pas pleines, donc en fait même un coureur qui n'a pas participé aux départementaux peut demander une qualif exceptionnelle pour les quarts de finale.
D'accord.
Voilà. Et à partir des quarts de finale, par contre, pour les demi, là, il y a des quotas. Donc, en gros, par exemple, pour aller des quarts de finale aux demi-finales, il faut faire dans les 75% de la course. Donc, par exemple, sur le cross cadet masculin, s'il y a 100 athlètes, les 75 premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Pour les demi-finales, pardon.
Par rapport à la saison en salle, j'imagine que pour vos athlètes, c'est aussi important parce que c'est vraiment le début de l'athlétisme. On avait vécu d'ailleurs le titre de championne de France du 200 mètres de Sornalacoste. Il me semble que c'était il y a 2 ans, en 2021, si je dis pas de bêtises.
Je pense que c'était il y a un an.
Ou en 2022, ouais.
On avait changé dessus l'année dernière.
Est-ce que ces championnats de France en salle, c'est l'objectif de quelques athlètes du G2A? Et puis, si oui, lesquels?
Oui, c'est l'objectif. Alors déjà, il va y avoir des championnats de France jeunes et des championnats de France plus pour les seniors. Mais déjà, voilà, on va avoir des athlètes comme Julie Faure, Meta, qui l'année dernière avait fait championne de France cadette des épreuves combinées. Donc là, elle passe cadette 2, donc elle va avoir des ambitions aussi sur la salle. Julie Faure également sur le triple saut. On a Célia Chausserie qui avait fait championne de France espoir en salle du 60 mètres haies. Donc il y aura des ambitions, elle aussi, en espoir, mais aussi en championnat de France élite. Voilà, parce qu'elle a le niveau, elle doit aller dans le top 8 français sur le 100 mètres haies, donc vraiment ça, au niveau des élites, elle aura des ambitions. Sorna fera pas de salle, ou du moins pas en France, parce que du coup, elle est en stage aux États-Unis. Donc, des stages, c'est des longs stages qu'elle fait, elle est trois fois 2 mois dans l'année, elle sera aux États-Unis. Donc, je sais pas, par contre, peut-être qu'il y aura des courses de prévues aux États-Unis en salle. Mmh. Ouais, il y en aura de prévues en salle, sans doute, mais voilà, elle fera pas les championnats de France.
Par rapport, donc, à la saison dernière, quel bilan global vous tirez de cette saison 2022?
C'est une saison exceptionnelle, parce que le nombre de jeunes filles qui ont été qualifiées en national ou international a été prédominant cette année. C'était une très très bonne année au niveau sportif.
Qu'est-ce qu'on pourrait retenir globalement sur les gros noms du G2A, si on pouvait ressortir quelques performances pour chacune d'elles?
Déjà, pour les 4 internationales dont a parlé Eric, on a Sornalacoste, comme d'habitude, oui. Qui a participé au championnat du monde de Gênes sur le 4x400, oui. Et sur le championnat d'Europe à Munich. Voilà, là, forcément, les championnats vraiment les plus gros seniors, etc. Donc, c'est très, très fort. Ensuite, on a Lisa Blanc, qui a eu une sélection au Festival Olympique de la Jeunesse sur 400 mètres haies, où elle a terminé 6e en 61-98. Ensuite, Meta Tumba, qui a participé au championnat d'Europe cadette sur 400 mètres haies. Elle a terminé à 7e place en 60-87. Donc, pour la petite histoire, c'était elle qui devait être sélectionnée au Festival Olympique de la Jeunesse.
Ah oui, elle a été remplacée par Lisa Blanc.
Voilà, elle s'est blessée, elle a été remplacée par Lisa Blanc. Au final, bon, ça tombait bien. Quand on perd ça fait toujours une sélection pour G2A, donc oui. C'était bien. Et ensuite, on a Célia Chausserie, qui a participé au championnat méditerranéen U23 sur 100 mètres également. Voilà. Et puis derrière, on a juste derrière, qui n'est pas international, on a Julie Faure, mais qui a un très haut niveau, qui a encore fait une médaille. Voilà, ça fait 2 années de suite qu'elle fait une médaille en cadette 2, triple saut. Et là, en junior première année, elle a terminé 3e au championnat de France qui a des juniors extérieurs. Donc voilà, il est juste derrière, mais voilà, les filles performent très bien. Donc ça, c'est un plus. Et voilà, ça prouve aussi la formation du G2A est en pleine forme. Voilà, l'année dernière, on a qualifié 15 athlètes au championnat de France qui a des juniors à Mulhouse. Voilà, c'est quand même un révélateur de la formation chaque année, les France KD Junior, et c'était un record pour le club.
15 athlètes qualifiés pour les donc championnats de France KD Junior par rapport au club français. Est-ce que c'est un bon total? Alors j'imagine qu'il y a peut-être des clubs en région parisienne qui en ont plus, mais dans la grande région aquitaine, est-ce que 15 c'est un bon score globalement?
Alors c'est un bon score. Nous, par rapport aux chiffres des autres années, c'est un très bon score. Par rapport aux autres clubs, là je saurais pas vous dire exactement, mais je pense que c'est quand même un bon score, qu'il n'y ait pas trop d'athlètes qui a moins d'athlètes dans les autres clubs, sauf peut-être dans des gros comme Bordeaux ou Talence. Ouais. Après, s'il faut regarder sur la formation, c'est qu'on a aussi fait les interclubs jeunes en octobre dernier. Et là, on est le seul club de Nouvelle-Aquitaine. En fait, les interclubs jeunes, c'est une équipe garçon et une équipe fille séparée. Et on est le seul club de Nouvelle-Aquitaine à avoir qualifié nos deux équipes hommes et femmes au championnat de France.
Donc ça veut dire que vous avez suffisamment de jeunes pour faire. On rappelle que les interclubs, donc c'est toutes les disciplines de l'athlétisme plus les relais. Donc finalement, vous avez assez de jeunes pour faire donc une équipe homme et une équipe femme performante du coup, comme elle s'est qualifiée à la fois.
C'est ça, exactement. Mais là, du coup, c'est un athlète par épreuve sur chaque épreuve de l'athlétisme chez les jeunes. Et on a qualifié les deux. Les filles ont terminé 6e. Donc en plus, elles terminent très proche du podium. Il manquait pas trop de points. Et du coup, c'est une satisfaction. Voilà, ça me permet de donner la valeur d'un club au niveau de la formation. Parce que voilà, les jeunes, forcément, c'est notre formation qui prime et ça prouve qu'on fait un bon travail à ce niveau-là.
Vous écoutez Culture Sport, c'est sur Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h, 20h30, nous retrouvons nos invités du G2A qui répondent aux questions de Christian.
En parlant de formation, alors c'est une question que j'ai toujours l'habitude de poser à Guillaume Avril, l'entraîneur de la Couronne Grand Angoulême Judo, parce qu'il avait beaucoup de filles qui performaient au niveau. C'est vrai que dans les internationales que tu m'as citées, il y a que des filles. Alors, la question simple, et j'imagine que la réponse est très compliquée, est-ce que c'est plus facile de former des filles, entre guillemets?
Je ne pense pas, mais je pense que c'est...
C'est une question de génération, alors, grosso modo.
Oui, c'est ça.
Quand on a une année avec une médaille, une Isa qui arrive, en final, ça fait deux athlètes de haut niveau en cadet une. Et voilà, ça tombe sur des filles.
Et puis l'année prochaine, on aura peut-être l'inverse avec des garçons.
2022, par rapport au club, est-ce que c'est aussi une bonne année au niveau? Déjà, il y a forcément vos organisations, donc le meeting du G2A et puis les foulées d'Angoulême. Donc ça, on fera un focus sur ces deux événements. Mais grosso modo, est-ce que le club a gagné des adhérents cette année? Enfin, comment se porte le G2A globalement?
Globalement, il se porte très très bien. On est près de 900, on est à 827 athlètes licenciés à ce jour. Ça nous fait, on est le quatrième club de Nouvelle-Aquitaine et nous sommes le 41e ou 42e club français sur plus de 1800. Donc la santé est bonne et les dirigeants sont ravis.
Donc la santé est bonne d'un point de vue adhérent, mais d'un point de vue sportif aussi. Il y a beaucoup d'adhérents et puis les résultats sont au bout. Donc au final, c'est tous les feux sont verts, j'ai envie de dire.
Tout à fait, tout est encourageant et ça prouve qu'on est sur la bonne voie, que le travail qu'on a fourni depuis ces dernières années porte ses fruits.
Forcément, j'évoquais les deux événements que vous avez organisés, vos deux événements phares, entre guillemets. On va commencer par le meeting. Alors moi, j'avais assisté au meeting et c'est vrai que forcément, j'ai été sublimé par sa conclusion avec un concours du lancer de poids magnifique où il me semble que Fred Dagé remporte le concours à égalité avec son concurrent principal. Mettre les lancers à l'honneur, c'est toujours l'une de vos volontés, Clément. On avait aussi vu la présence notamment au disque de Lolasson Jouan.
Oui, exactement, ça a toujours été une volonté du meeting. Quand je suis arrivé, moi, en 2019, c'était déjà le cas. Voilà, il y avait un gros meeting de lancers qui avait une réputation ici. Donc, notamment grâce au travail de Robert Amto, qui est un de nos partenaires principaux du meeting et qui est très sensible justement à cette partie lancée. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on a souhaité perpétuer. Et quand je me suis lancé, du coup, sur l'organisation du meeting, après les deux années d'annulation, en fait, les lancers, c'est un des trucs où j'ai quasiment eu à bosser parce que, en gros, les athlètes connaissait déjà le meeting, savait sa réputation, et en fait, pour un lanceur de poids, Angoulême, c'est presque coché chaque année.
C'est vrai qu'avec Fred Dagé, on avait pu le voir avec Étienne à la fin du meeting, et il nous avait dit qu'Angoulême, c'était pratiquement l'un de ses meetings préférés, et que finalement, il adorait venir en Charente.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, chaque année, on a un gros meeting de poids, un gros meeting de disque. Et là-dessus, c'est un gros plus pour nous, c'est clair. Alors du coup, cette année, Fred Dagé a pris sa retraite. Il sera pas là l'année prochaine. Il a pris sa retraite sportive pour se lancer plus dans les trucs de tout ce qui est force athlétique, des choses comme ça.
Et ce meeting 2022, est-ce que c'est plutôt un bon cru? Qu'est-ce que toi tu retiens, Clément, particulièrement sur cette édition? D'ailleurs, tu vas nous rappeler la combienième c'était?
Alors la combienième, je saurais pas vous dire parce qu'en gros, il y a eu des meetings nationaux, des meetings.
Ah oui, d'accord.
Okay. Marrant, donc c'est pas. Je pense qu'en 2004, il y avait déjà un meeting à Angoulême. Donc, je saurais pas vous dire exactement, mais oui, ça a été un bon cru. Moi, j'étais assez satisfait. C'était ma première organisation. Donc voilà, ça me permettait de prendre des marques, de me rendre compte, et j'ai eu très bon retour dessus de la part de mes dirigeants, du public qui était là, des athlètes également. Donc ça, c'était assez satisfaisant. Les résultats sportifs aussi ont été là pour les athlètes. Voilà, notamment avec les deux perfs au poids qui sont des perfs de niveau IA. En fait, donc c'est le meilleur niveau de perf possible. Et en gros, sur tous les meetings du même niveau que nous, il y a dû avoir 5 perfs IA, tous les meetings compris, dont 2 chez nous. Donc ça, c'était assez satisfaisant. Et après, la moyenne de perf, on a une quinzaine de meetings nationales, et au niveau des perfs globales, notre meeting est 4-5e. Donc c'est très bien aussi. Bon, on était très satisfaits. Et du coup, on espère que ça va continuer en 2023 avec le meeting qui est programmé le vendredi 2 juin.
D'accord.
Donc, on a une date qui est encore plus appropriée, je pense, parce que du coup, cette année, les Français Élites sont beaucoup plus tard. Si vous voulez, l'année dernière, les Français Élites étaient le 24 juin. Donc en fait, tous les meetings nationaux devaient se placer entre le 21 mai, le second tour des interclubs, et les Français Élites qui étaient le 24 juin. Donc ça laissait peu de week-ends pour les meetings, donc plus de meetings chaque week-end, donc plus de concurrence. Là, cette année, les Français Élites sont fin juillet, donc ça permet de pouvoir faire des meetings nationaux.
Il y a un mois de décalage entre les deux.
En fait, c'est que les championnats du monde à Eugène étaient très tôt l'année
dernière. Oui, tout à fait. Donc ça fait que, comme les meetings l'an passé se tiraient la bourre, forcément, chaque meeting avait un plateau un peu moins relevé, entre guillemets.
C'est ça, voilà, ça disperse un peu les athlètes. Alors que là, du coup, le week-end du 2 juin, on était peut-être 4-5 meetings nationales. Là, on sera 2.
Oui.
Avec Poitiers, qui est dimanche, et nous, le vendredi. Donc, en plus, c'est pas mal. Il y a un jour de plus d'écart.
Donc ça veut dire que les athlètes peuvent même faire Angoulême et Poitiers.
Notamment sur les courses un peu intermédiaires, où des fois, la veille pour le lendemain, c'est un peu juste. Oui. Là, les 2 jours d'écart, ça pourra permettre un jour de récupération pour faire le trajet, pour récupérer, etc. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on aura encore plus de. En plus de monde, du coup, peut-être qu'on va un peu plus sélectionner, mais des minima sur certaines courses et tout pour pas avoir trop de séries, parce que souvent, notamment dans les courses de demi-fond, le monde en fait attire le monde. Là, on a eu 4 séries de 800 mètres avec des lièvres sur les 4 séries. Les athlètes savent qu'il y a un bon 800 avec des lièvres en Angoulême. Ils prévoient de revenir l'année prochaine. Ils en parlent, donc d'autres viennent. Il va falloir peut-être un peu plus limiter, mais du coup, il y aura sans doute plus de niveaux. On est assez optimiste là-dessus.
Donc c'est bien, ça, au final, si les athlètes parlent du meeting en positif, ça veut dire qu'au final c'est un événement qui se fait sa place, qui devient un rendez-vous. Alors peut-être qu'un retournable, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas un rendez-vous important pour la préparation de plusieurs athlètes, pour les France et pour voir les objectifs parfois internationaux.
Oui, c'est exactement ça. On va dire que c'est un rendez-vous incontournable pour les lanceurs, comme vous m'en parlez tout à l'heure.
Ouais.
Il y a un rendez-vous important à cocher pour les autres. Pour les autres athlètes, sur les autres épreuves, on va dire que on a un très bon meeting sur les autres épreuves. Après, on va dire que nous, on est considéré peut-être plus comme un meeting spécialiste lancé. Et sur nos épreuves de demi-fond, on n'est peut-être pas non plus au niveau d'un meeting spécialiste de demi-fond comme Carquefou ou Décines, mais on commence à s'en rapprocher pour des athlètes de la région. Pour des athlètes comme Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle, etc., voire même Nantes, on commence à être un meeting en demi-fond, même sur d'autres épreuves comme le 400 et des choses comme ça qui sont une évidence, à venir faire.
Et puis Eric, toujours en 2022, le public angoumoisin a eu le bonheur de voir courir Sorna Lacoste. Elle restait sur une petite déception la veille et du coup elle a choisi de doubler à Angoulême le lendemain, forcément pour le public qui peut voir son athlète phare. C'était forcément hyper plaisant.
Ah ben oui, et puis c'est une récompense pour tout le monde, pour les gens du club, pour les athlètes du club, pour les élus également.
D'ailleurs, comment vous le percevez, vous, ce meeting? C'est vrai que ce qui est bien dans un stade d'athlétisme, au final, c'est que c'est un stade qui vit et il y a plusieurs cœurs de vie. Il y a les aires de lancer, il y a la piste, il y a aussi le sautoir pour la perche. Enfin, c'est l'action, finalement, elle est pas concentrée sur un seul et même endroit.
Oui, c'est ça. L'action est partout. Et ça montre au public de Charente, enfin d'Angoulême en tout cas, que l'athlétisme, c'est beaucoup de choses différentes et tout est plaisant à voir, surtout avec des athlètes de haut niveau comme on reçoit tous les ans.
Par rapport à 2023, est-ce qu'il y a déjà des épreuves qui sont bloquées. Enfin, est-ce que vous avez déjà un peu fait le programme des épreuves? Est-ce qu'il y a potentiellement des athlètes que vous espérez voir revenir ou de voir potentiellement des nouveautés? Enfin, où on est un peu l'avancement de ce meeting 2023 début janvier?
Alors oui, effectivement, on a fixé les épreuves. On est resté globalement en fait sur des épreuves similaires à l'année dernière. Et en fait, on a fait des changements. C'était sur les épreuves qui ont été moins bonnes ou pas. Donc en gros, en épreuve nationale, on maintient le 10 qui est le poids masculin. On maintient le 400 mètres femmes, du coup, pour 100 mètres. On maintient le 400 mètres des femmes, on met à Elisa notamment. On maintient également le 100 mètres des femmes en épreuve nationale avec Célia, Julie Fort, Maud Branlard. Donc là, on a un gros niveau là-dessus au club. On essaye de choisir des épreuves où nos athlètes vont être mis en avant.
Bien sûr, parce que le meeting, c'est aussi l'occasion pour les athlètes du G2Z de courir à domicile, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Ouais, c'est la vitrine du club, évidemment.
Ouais.
Et ensuite, on a le triple saut féminin qui avait bien marché l'année dernière, donc on l'a maintenu également. Et du coup, on a fait descendre deux épreuves, c'est le 200 mètres homme et le marteau femme. Voilà, le 200 mètres homme, on avait peut-être manqué un peu de, on avait une bonne densité, mais on manquait un peu d'athlètes élite. Donc, on a décidé de le faire descendre parce qu'on pense qu'on peut garder cette densité en ayant une épreuve interrégionale. Et ensuite, le marteau féminin, ben, on avait contacté énormément d'athlètes et très peu étaient disponibles pour raison X ou Y. Donc on a préféré faire descendre l'interrégional. Et à la place, on a fait monter la perche féminine. C'est dernière, on a eu un très bon concours de perche grâce au travail de notre entraîneur de perche, Bertrand Lemoyne, qui avait su contacter des athlètes de haut niveau. Et on fait monter le 3000 masculin. Voilà, étant demi-fondeur, ça me tenait à cœur de monter un gros 3000. Et cette année, donc étant décalé par rapport aux dates et aux autres gros meetings de demi-fond, on est un des seuls, les autres meetings de demi-fond ne tombent pas le même week-end que nous. Et 8 jours après, il y a un très gros meeting de 5000 mètres sur Paris. Donc faire un 3000 8 jours avant un 5000 mètres, c'est idéal. Donc je pense qu'on pourra attirer du monde pour avoir dans l'idée deux grosses séries de 3000.
Dans la préparation pour la championnat de France élite, un athlète peut enchaîner combien de meetings sur le mois de juin? Combien j'imagine que du coup les meetings se sont dispatchés, mais combien de meetings tu conseillerais toi un athlète avant les France? Ça dépend des disciplines, j'imagine.
Ça dépend des disciplines déjà. Sur du demi-fond, moi je parlais pour mon sujet, mais sur du demi-fond 3000-5000, il faut en faire, faut faire 3-4 courses maximum. Pour pas arriver, voilà, parce que c'est plus usant et tout. Après, sur du 800 mètres, on va avoir des 800 mètres, des coureurs de 800 qui vont faire, aller sur la saison de piste, qui vont faire 600-800 mètres, et on va en avoir d'autres, voilà, notamment, je pense à Gabriel Tuel l'année dernière, qui a fait des championnats du monde, mais il a dû faire 12-13-800 mètres pendant sa saison de piste. Donc, selon les athlètes, selon les disciplines traumatisantes ou non, on a du triple saut, voilà, où forcément ça tape un peu plus au niveau des chocs, etc. Ça dépend des athlètes, ça dépend des entraîneurs. Là, honnêtement, c'est un peu au ressenti de chacun. Et c'est toujours compliqué à dire. Il y en a qui vont être en forme plus tôt, d'autres plus tard. Voilà, il y en a qui vont rentrer que fin juin, vu que les championnats de France sont tard. Ça veut dire que si on essaie d'être en forme en mai, ça veut dire qu'il va falloir tenir la forme de mai jusqu'à fin juillet.
Ah oui.
Des fois, ça peut être long d'être 2 mois en forme. Donc, il y en a qui vont choisir, des fois, de faire, il y a plusieurs techniques. Soit on rentre en mai et on pense être capable de tenir jusqu'à fin juillet, donc on fait la saison entière. Soit on rentre en mai en acceptant de pas être en forme, on fait les premiers meetings un peu en dents pour rentrer vraiment en forme sur fin juin. Soit il y en a même qui vont faire des meetings mais des juin, voire couper fin juin et reprendre des meetings à plancher pour refaire monter la forme sur
juillet. Au final, là, on parle de pic de forme.
Voilà, c'est ça. Le but, c'est de caler le pic de forme au bon moment. Mmh. Et après, à l'inverse, il y en a, voilà, on parle des France élites, mais je prends mon exemple. Moi, mon objectif, ça va être de me qualifier aux France élites. Et on va dire que mon pic de forme, presque aux France élites, je sais que j'ai pas grand chose.
Oui, il sera forcément avant pour que tu puisses te qualifier.
Voilà, pour me qualifier. Moi, ce qui m'importe, c'est plus de faire un gros chrono avant pour aller aux France élites. Ouais. Et après, aux France élites, face à des Hugo et Jimmy Gressier et tout ça, on peut pas, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Mais...
Votre deuxième événement phare, donc, c'est les foulées d'Angoulême. Début juin, le meeting du G2A. Et donc, début avril, les foulées d'Angoulême. Il me semble que c'était la première édition depuis celle que vous aviez mis au mois de septembre par rapport au Covid. Quel bilan vous tirez de cette édition 2022 avec près de 1700 coureurs du coup qui ont participé et donc à cette 15e édition des foulées d'Angoulême?
Bon, on a été satisfaits, on va dire.
Une reprise timide.
Ouais. On espérait quand même toujours un peu plus, mais on va dire que on retombe largement sur nos pieds avec 1700 coureurs. On a eu pas mal de monde sur les courses enfants aussi, donc on arrive quasiment tout compris à plus de 2200 participants. Le public était vraiment présent par contre, voilà, j'ai eu les retours des gens qui étaient sur les motos, notamment Christian, tout ça, qui nous ont dit que le public a vraiment joué le jeu sur le bord du parcours.
Donc voilà, ça s'est relativement bien passé.
C'était vraiment important pour vous d'ailleurs de retrouver votre date fétiche de début avril, parce que c'est vrai que avec le Covid, il y avait eu, je crois, une annulation et puis une au mois de septembre. Là, c'était vraiment important pour vous de vous remettre sur avril, parce que c'était finalement un créneau qui fonctionnait très bien et qui avait permis à la course de se développer.
Oui, et puis c'est un rendez-vous maintenant qui est dans la tête de tous les Angoumoisins,
oui,
tous les coureurs qui participent. C'est important de revenir au mois d'avril.
C'est clair que c'était important, et puis aussi pour voir aussi à long terme, parce qu'on sait que plus tôt on repartira sur quelque chose de classique, plus tôt on remettra en place, plus tôt on aura du monde. Voilà, on a eu 1700 coureurs. Si on avait attendu un an, on aurait peut-être eu 1700 coureurs encore en avril l'année d'après. Et on sait que ça va recréer de la dynamique, et pour avoir plus de monde dans les années à venir, ben, il faut organiser des éditions et recréer en fait une place fixe à la même période. Pour entrer
entre guillemets 2022, c'était 2022 entre guillemets, c'était une édition de remise en route, et puis on espère remonter en puissance d'un point de vue participation 2023.
Oui, c'est un peu ça, voilà. La première remise en route était en septembre, c'était une remise en route encore un peu plus appuyée, voilà, parce qu'on est revenu sur une édition quand même relativement normale, quoi. Et là on espère qu'il y aura encore plus de monde pour cette année le 1er avril.
D'un point de vue sportif, hein, donc c'est Youssouf Geldo Gersou qui l'a remporté donc en 30 minutes 19, et moi je tiens à souligner quand même la troisième place d'Amat Abou Daoud en 31-05, il me semble qu'il a gagné peut-être une fois ou deux sur Angoulême, et puis surtout c'est quelqu'un qui est souvent placé sur Angoulême, un peu comme le Tour de France, il a fait plusieurs top 10, il y a des coureurs qui ont fait plusieurs top 10 sur le Tour de France, lui c'est sur les foulées d'Angoulême. 2023, on garde forcément le même parcours, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu sur votre première organisation, puisque ce sera au mois d'avril?
Oui, ça sera le 1er avril du coup.
En tout cas, première organisation, je veux dire qu'elle sera avant le meeting.
Oui, voilà. Après les quarts de finale de cross, ce sera notre première organisation.
Oui.
Du coup, cette année, on aura une nouveauté. Donc, on garde le même parcours pour le 10 km. Et on aura une nouveauté. Donc, on aura un 5. Donc, il partira à 18h15, 15 minutes avant le 10 km, qui empruntera, en fait, les 5 derniers kilomètres du parcours du 10 km.
Ça fait que le départ du 5 km aura lieu où, précisément?
Alors, ce sera juste après la cathédrale, un peu avant la colonne, à côté du jardin vert.
Ok, d'accord. Donc un départ en descente dans ce cas-là.
Exactement, c'est ça. Donc c'était pour faire une nouveauté, ça permet de redynamiser aussi, de faire quelque chose d'autre, et puis de permettre aux coureurs qui osent pas se lancer sur le 10 parce que c'est un peu trop long, de pourquoi pas faire le 10 km pour essayer, et même chose pour les jeunes coureurs, d'éclater des choses comme ça, ou un 10 km ça peut être un peu trop long, commencer par un 5 km ça peut être intéressant, et ce 5 km du coup portera le nom de Daniel Lavort. Du coup, qui était un membre de la commission d'organisation des foulées, qui a énormément œuvré pour les foulées depuis son existence, et qui est décédé du coup en septembre 2021.
C'est vrai que ce 5 km, ça peut permettre aussi à des Angoumoisins qui sont pas très sportifs, mais qui sont sur le bord de la route, à encourager les coureurs de se dire allez, je me fais une petite préparation pour 5 km, ça va plus court que 10 km.
Voilà, c'est exactement.
Là, je parle pour moi, parce que 10 km, je me sens incapable de courir ça d'une traite.
Voilà, il y aura le 5 km qui sera à votre disposition.
Voilà, c'est déjà le plus raisonnable, en tout cas.
Vous écoutez Culture Sport, c'est sur Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com, c'est Culture Sport, votre émission des sports. Chacun dit 19h, 20h30, nous retrouvons nos invités du G2A qui répondent aux questions de Christian.
Oui, mais Clément, tu avais évoqué le cas de Sorna Lacoste en début d'émission. On va forcément parler de Sorna, qui d'ailleurs a reçu le titre d'athlète charentaise de l'année de la part de Charente Libre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui. Sorna a fait le choix de partir aux États-Unis avec son entraîneur et mari Bastien. Je crois qu'ils sont partis du côté d'Orlando. Comment tu expliques ce choix? Enfin, comment tu vois tout ça?
Je pense que c'est une idée de progression, forcément. Essayer de voir autre chose, d'améliorer son entraînement, dans s'entraîner avec des athlètes de très haut niveau. Et du coup, forcément, ça tire vers le haut, ça permet de progresser. Et voilà, ici, elle s'entraînait quand même relativement toute seule. Donc, des fois, c'était peut-être un peu difficile. Donc là-bas, ça peut vraiment créer une dynamique qui peut être que positive, je pense. Et je pense qu'on va rapidement voir dans ses résultats que ça a été le bon choix.
Positif, oui. Oui, c'est-à-dire que à Orlando, elle s'entraîne dans une équipe, dans un groupe. Donc c'est toujours bénéfique. C'est vrai, comme disait Clément. Ici à Angoulême, elle s'entraînait toute seule.
Donc, oui, elle reste licenciée au club.
Tout à fait, oui. Elle est licenciée au club, elle fera les interclubs et elle reviendra au mois de mars, je crois.
Oui, elle doit rentrer un peu maintenant.
Elle revient périodiquement.
D'accord, donc ça veut dire que potentiellement sur les interclubs, c'est toujours au mois d'avril les interclubs d'ailleurs?
Oui,
au mois de mai.
Au mois de mai, pardon.
Elles seront là pour
les interclubs. Interclubs au mois de mai, voir le Mythique au mois de juin, c'est quelque chose de jouable de l'avoir sur Angoulême.
Oui,
tout à fait.
C'est vrai que j'avais regardé un peu avant de commencer l'émission, donc il y a les mondiaux qui auront lieu à Budapest cet été. D'ailleurs, Budapest qui rappellera très bon souvenir à l'équipe de France d'athlétisme, puisque c'est là-bas que Christine Aron a fait son record d'Europe du 100 mètres en 98, je me rappelle, parce que j'étais gamin devant ma télé. Mmh. Et puis au mois d'août, au début septembre, je crois qu'il y a les championnats d'Europe à Rome. Donc ça peut être des objectifs pour Sorna, potentiellement essayer d'aller chercher peut-être une qualif en individuel, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire pour les mondiaux notamment l'an passé.
Mais je crois que c'est un peu leur l'ambition, oui, c'est de se faire les minima, revenir en France pour faire des courses, pour courir après les minima et pour réussir à faire toutes ces compétitions là. Ouais.
Oui. D'ailleurs, Eric, j'imagine que de voir Sorna à Tokyo sur les JO, même si ça a été un relais et puis malheureusement il n'y a pas eu de finale derrière, j'imagine que pour vous, pour le club, ça a été une fierté de finalement d'être devant la télé et de l'encourager.
Oui, bien sûr, oui. Mais une fierté partagée, et puis pas seulement Sorna, c'est aussi nos quatre filles là qui se sont qualifiées pour des compétitions internationales. Oui. Ça, c'était la cerise sur le gâteau, c'est la saison dernière. C'est vraiment exceptionnel.
C'est vrai qu'il y avait toujours un peu Sorna en tête d'affiche. C'est vrai que maintenant, il y a des petites cadettes qui posent derrière. Et puis, avec Célia Chausseret qui est en constant progrès. Donc, c'est bien, ça fait de l'émulation au sein du club.
Oui, tout à fait.
Et l'émulation, c'est hyper important parce qu'on progresse forcément tous quand on se tire un peu la bourre, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Ça motive tout le monde. Oui. Et puis, ça montre aussi que G2A est capable de faire quelque chose que certains clubs sont pas capables de faire. Je vais pas plus loin. Un club dirigé par des bénévoles qui réussit à mettre quand même 4 ou 5 filles dans les grosses compétitions, c'est pas évident.
J'imagine que c'est le fait d'avoir des bons entraîneurs et puis surtout d'avoir un stade d'athlétisme alors j'allais dire flambant neuf, mais maintenant ça fait quelques années qu'il existe, mais en tout cas c'est vrai que le fait d'avoir un vrai stade d'athlétisme pour le club, ça a été un bon en avant, ça aussi, non?
Oui, tout à fait. Ben le fait quand on est arrivé là sur ce stade, ça déjà le fait d'avoir mutualisé les trois clubs historiques d'Angoulême, oui. Ça avait donné du renouveau, hein, du 109. Et le fait de venir ici sur le stade de ma campagne, là, ça fait exploser nos licenciés, hein, c'est sûr. Ensuite, il y a tout le travail. On travaille dans des conditions idéales aussi pour nos athlètes, pour nos bénévoles, pour nos entraîneurs. Et moi, je trouve que c'est très, très bien. Faut qu'on continue comme ça. Et derrière nous, il y a tous les sponsors, il y a la ville d'Angoulême, le Grand Angoulême, le département qui sont là aussi pour nous aider.
Et puis c'est vrai que c'est des instances que vous avez l'occasion de remercier, notamment lorsque il y a des gros événements qui sont porteurs de public et puis de couverture médiatique comme les 10 km d'Angoulême ou le meeting. Ça permet aussi de remercier les instances qui vous soutiennent au quotidien.
Tout à fait, oui. Les sponsors et puis tout le monde là, qui répond toujours présent dans nos compétitions et pour nous aider.
Ouais. Ça reste, c'est vrai que c'est des super vitrines pour le club. Et des fois, voilà, sur l'organisation du meeting, des fois, entre guillemets, on sait que c'est une vitrine sportive. Ça permet aussi de pourquoi pas recruter des athlètes derrière qui voient que le G2A fait une super organisation et tout. Et on accepte un peu des fois de se dire ça peut être une organisation où on peut perdre un peu d'argent. Par exemple, voilà, c'est pas été le cas cette année sur Meeting. On a bien tenu le budget, donc ça c'est un plus, notamment grâce à nos partenaires privés et à nos partenaires publics. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en constante recherche, voilà, de partenaires, de soutien chaque année pour pouvoir maintenir nos événements et prouver que la ville d'Angoulême et voilà la Charente peuvent organiser des choses de très haut niveau. Et de très bonnes factures au niveau national.
Je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais tout à l'heure des interclubs. Tu parlais aussi de potentiellement attirer de nouveaux athlètes au sein du club. La première question, est-ce qu'il y a des mercato en athlétisme? Enfin, comment ça se passe globalement? Le fait d'attirer un athlète, par exemple, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait Ziad Azizi qui vous avait rejoint, qui était tunisien et qui courait sur le 400 mètres haies. Enfin, comment ça se passe grosso modo pour recruter des athlètes entre guillemets qui vous rapporteront des points sur les interclubs?
Alors, en fait, avant, la période de mutation, c'était du 1er septembre au 31 octobre. Et en fait, cette année, ça a changé. On peut recruter en fait toute l'année normalement. sans payer de supplément. Et en gros, donc ça s'ouvre à partir du 1er septembre au moment du changement de saison. Et en gros, dès cette année, on a fait, dans le but justement de progresser au niveau interclub, on a fait un assez bon recrutement, notamment au niveau de, on a cherché à combler nos points faibles, quoi, parce que forcément, bah, sur les interclubs, si on est faible en hauteur féminin, bah, on va essayer plutôt d'axer sur cette épreuve-là. Et voilà, on a eu un très bon recrutement, donc avec en tête de liste une demi-fondeuse, Maëlle Porcher, qui a fait 4,26 au 1500 mètres. Donc en gros, par rapport à nos athlètes actuellement aux 400 mètres, ça représente un 300 points en plus aux interclubs.
Ah oui.
Bon, c'est vraiment pas mal, quoi. Ensuite, donc côté demi-fond, on a Antoine Vichenot, qui est un demi-fondeur qui est quasiment du même niveau que moi. Thomas Réau, un autre demi-fondeur qui est quasiment du même niveau que moi aussi. Donc là, l'idée, c'est de créer, en fait, on a créé depuis début septembre, voilà, où je suis à la manœuvre d'un projet demi-fond, voilà, avec les entraîneurs, au niveau donc, recrutement, au niveau aussi formation, de bien structurer la formation pour avoir des jeunes qui performent aussi en demi-fond et qualifier des équipes chez les jeunes, pas que en senior, au championnat de France de cross. Donc cette année, au demi-finale, on va avoir de belles ambitions en termes de demi-fond, avec notamment voilà l'équipe senior homme qui va être constituée de 8 athlètes très performants.
Ouais, et je crois que ça doit être 4, c'est les 4 ou 5 meilleurs qui déterminent le...
Enfin, ouais, les 4 meilleurs coureurs de l'équipe déterminent. Ouais. Cette année, sur les 4 meilleurs, il n'y a qu'un muté qui peut compter. Donc cette année, sur les deux qu'on a recrutés, Antoine et Thomas, il n'y en aura qu'un des deux qui comptera. Donc derrière, ben, il y a Valentin Deschamps, qui a déjà fait 31-10 sur 10 km. Donc en gros, 31-10 sur 10 km, c'est un coureur qui fait dans les 5 au foulé l'année dernière. Manuel Sio, qui a déjà fait 31-15, qui a déjà fait 4e au foulé. On a ensuite Kevin Guérin, qui a déjà fait 31-50, Grégoire Gaucher, qui a fait 31-40 et qui a terminé 8e au foulé cette année. Donc en gros, les 8 coureurs dont je vous parle, Arnaud Delatte en 31-30.
Oui, donc il y a vraiment une belle densité.
Voilà, c'est 8 coureurs qui sont capables de faire dans les 10 au foulé d'Angoulême. Ça tourne vraiment pas mal. Et voilà, dans l'idée, c'est avec ces 8 coureurs l'année prochaine, on aura plus d'unité. Donc, de jouer des médailles en championnat de France au niveau national. En cross, on était encore un peu limite, mais sur des championnats de France de 10 km, de 5 km, de semi-marathon, par rapport aux chronos dont je vous parle, il y a moyen de jouer des choses et on espère avoir des jeunes qui progressent. Voilà, notamment, on a un jeune junior, je suis Lucas Giraud, qui a fait 31-47 sur 10 km, donc qui a bien progressé. Et après aussi avec, pourquoi pas, un recrutement, parce que forcément, on a des demi-fondeurs proches d'ici, dans d'autres villes, qui voient qu'il y a une belle équipe ici. Et qui peuvent compléter cette équipe. Ils se disent, si moi je suis né à Angoulême, je peux faire champion de France de 10 km l'année prochaine avec eux. Donc l'idée, c'est d'avoir une dynamique à ce niveau et que ça tire vraiment toute la partie de demi-fond dans tout le club vers le haut.
Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais quand c'est comme ça, donc on fait la course avec potentiellement 8 athlètes et les 4 ou 5 meilleurs comptes, est-ce que finalement c'est une course d'équipe où on essaye de rester groupé ou finalement chacun fait sa course et puis on fait les comptes à la fin?
Non, chacun fait sa course. C'est pas comme en vélo, le fait d'être ensemble, ça, surtout en cross. Ça aide très très peu, quoi. Après, si des fois on se retrouve en course, on peut se relayer un peu, mais c'est naturellement. Mais en fait, le fait de se relayer en course, c'est quelque chose qu'on va faire avec un autre athlète du G2A, mais qu'on peut faire aussi
avec un autre adversaire.
Il y a pas, c'est moins tactique comme en vélo, comme en cyclisme.
Vous écoutez Culture Sport, c'est sur Attitude 98.3, 90.7. www.attitudefm.com, c'est Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi 19h 20h30, nous retrouvons nos invités du G2A qui répondent aux questions de Christian.
Donc on avait évoqué le cas de quelques recrues. Est-ce qu'il y a d'autres recrues phares qui sont annoncées au G2A pour la saison prochaine?
On a deux filles, une fille à la longueur, Mallory Bourdonton, qui fait aussi un peu de perche, donc ça peut aux interclubs, elle peut dépanner sur pas mal d'épreuves, aussi sur du sprint. On a Marie, donc elle venait de l'EPA. Marie Fayola aussi qui vient de l'EPA, qui fait les chronos sur 400 mètres rouillés. Donc ces deux athlètes, là les 5 athlètes que je vous ai cités avec elles deux, c'est des athlètes qui sont en équipant aux interclubs. Ensuite on a Clémence Varin, qui fait plutôt des tatlons avec une petite spécialité dans la hauteur. Donc des sauteuses en hauteur féminine, c'est toujours difficile à trouver. Donc là on a fait une bonne recrue à La Rochelle, qui a un très bon niveau, elle est niveau N3. Donc ça tourne pas mal. On a Loris Gagnant là qu'on vient de recruter, qui a un niveau N2 du 100 au 400 mètres haies. Donc là c'est pareil, il peut nous dépanner sur du 100 mètres, sur du 200 mètres, sur du 400 mètres, sur du 400 mètres haies.
Ah oui, sur le 400
aussi.
Vraiment hyper omniprésent sur pas mal d'épreuves.
Il est N2, donc en gros, son niveau de performance en sprint, c'est le même que le mien en demi-fond, en gros. Donc, en gros, chez les hommes, bah, il se place direct dans les 3 meilleurs hommes du club.
C'est vrai que pour les interclubs, c'est hyper important aussi d'avoir des athlètes qui sont polyvalents sur plusieurs épreuves. Tu parlais tout à l'heure de dépanner, mais c'est vraiment ça au final.
Oui, c'est ça, ouais, parce qu'on peut avoir un blessé, un blessé juste avant, donc il faut que quelqu'un fasse une autre épreuve et tout. Donc ça, c'est toujours compliqué. Et puis voilà, si on a par exemple sur 400 mètres haies, il y a Marie Fayola, on a Lisa, on a Meta, donc on peut vite avoir de la densité sur certaines épreuves. Donc voilà, il faut sur 100 mètres haies, c'est pareil, on a Maud, on a Célia Chausseret, on a Julie Fort. Donc on peut se retrouver justement, Julie Fort aux interclubs, c'est une spécialiste du 100 mètres haies. Et vu qu'on a Maud et Célia Chausseret, Julie Fort aux interclubs, elle va plus faire un 200 mètres.
Oui, voilà, après ça permet de décaler certaines athlètes sur d'autres disciplines lorsqu'on sait qu'on est vraiment quand on a vraiment une bonne plusieurs athlètes de bon niveau sur une discipline.
Oui, voilà, c'est ça exactement.
Parce qu'on le rappelle, c'est donc deux athlètes par club sur toutes les épreuves de l'athlétisme.
Voilà, deux athlètes par épreuve sur femme et homme. En gros, sur le 100 mètres, on a deux filles et deux hommes qui font le 100 mètres. Au marteau, deux hommes et deux femmes qui font le marteau. Il y a juste au 3000 mètres steep où il y a que les hommes qui font le 3000 mètres steep et les femmes ne font pas de 3000 mètres.
Ça fait combien de performances en tout alors comptabilisées dans l'équipe?
Ça doit être une presque 60.
Ah oui, donc il faut
plus de 60.
Il faut vraiment être le plus constant possible parce que et puis surtout éviter les zéros. Moi, c'est surtout
c'est ça qui peut coûter cher. L'année dernière, on avait fait 54 909 points. On avait fini quatrième de notre poule et on avait fini quatrième de notre poule. Il y avait quatre poules et on finissait sixième de toutes les poules comprises. Donc en fait, on serait tombé dans une autre poule, on serait monté.
Oui, tout à fait.
La poule la plus faible, on serait monté. Donc là, on espère rapprocher des 56 000 avec notre recrutement. Il y a quand même eu de... tous les athlètes ont progressé quand même. On regarde en arrière, on a commencé à un peu regarder. On a une progression générale de nos athlètes qui étaient déjà là l'année dernière, avec peu de départs quand même. On a des départs, mais ils restent censés au club, mais ils vont dans d'autres villes. Et ça, c'est toujours le point faible, c'est qu'on est moins une ville étudiante que des villes comme Limoges, Poitiers ou Bordeaux dans le coin. Donc on se retrouve avec des athlètes quand ils arrivent en junior 2, qui vont faire les études dans une autre ville. Donc souvent la première année ils restent au club et la deuxième année ça fait un an qu'ils s'entraînent dans l'autre ville. Donc on a tendance à ce moment-là à avoir des mutations, des athlètes qui quittent.
Les clubs réclament à ce qu'ils signent chez eux.
Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Après, on a quand même la chance d'avoir une fac de sport sur Angoulême, ce qui est pas non plus.
Oui, il y a quand même quelques. On voit que c'est en train de se développer. Oui. On a plus d'athlètes sur le qui restent quand même qu'avant. Et c'est pour ça, c'est à nous d'offrir. D'autres, on va dire, contrepartie, d'autres champs pour se développer et pouvoir résister à ça. Donc, en leur gardant un lien avec le club. Déjà, honnêtement, il peut y avoir l'aspect financier aussi. Voilà, donner les aider financièrement à l'année. Et après, leur offrir du lien au club avec des compétitions, des stages. Si les athlètes, ils rentrent les week-ends de temps en temps, ils font des déplacements avec le club, des stages avec le club, des choses comme ça. Mais ils gardent vraiment un pied avec nous. Et du coup, ça reste de l'humain. Et si humainement, ils se sentent bien ici, ils vont pas non plus avoir envie de partir. Et ça commence aussi à se savoir qu'on chouchoute nos athlètes parce qu'on commence à avoir beaucoup d'athlètes qui viennent vers nous qui sont intéressés, qui veulent des propositions. En fait, ils veulent nous rencontrer pour signer chez nous, en fait. Donc là, on est obligé, selon nos épreuves et tout, de filtrer un peu parce qu'on peut pas prendre non plus tout le monde.
Oui. Ça sert à rien d'avoir 8 super coureuses de 100 mètres haies si c'est pour avoir un trou au marteau. Enfin, je dis ça comme ça, je sais pas du tout. Ou à la hauteur, par exemple.
Il faut garder à l'esprit que G2A, c'est un club formateur également.
Oui.
Et que nos jeunes, on veut pas les mettre sur la touche. Ils doivent participer aussi aux interclubs.
Par rapport à la formation, après je reviendrai sur les interclubs, mais par rapport à la formation, on parlait tout à l'heure de polyvalence, des athlètes qui pouvaient vraiment dépanner sur plusieurs épreuves. Est-ce que G2A, c'est aussi une volonté de faire toucher un peu à tout au niveau des jeunes, que chaque jeune aille faire un peu de lancer, un peu de course, un peu de saut, pour que finalement il puisse trouver forcément sa discipline phare, mais qu'il ait quand même un peu touché à tout. Enfin, est-ce que c'est une de vos volontés au sein du club?
Disons que jusqu'à minime, ils sont polyvalents, et après ils se spécialisent. Ils ont touché un petit peu à tout, pardon, à toutes les disciplines. Mais ils ne sont pas vraiment spécialisés dans l'une ou l'autre.
Jusqu'à un minimum, dans les compétitions de piste en minimum, ils sont obligés de faire un saut, un lancer et une course. En fait.
Ah oui, d'accord.
Donc ça se définit comme ça. Et après, effectivement, ça arrive aussi qu'en cadet, il y en a qui fassent, comme je vous ai parlé de Clémence Vara tout à l'heure, comme un peu méta, qui font des épreuves combinées. Les épreuves combinées, c'est en fait les tatons, le décathlon en senior. Par exemple, méta en salle, ça va être un pentathlon, ça va être 5 épreuves. Et en gros, là, forcément, quand on fait ces épreuves-là, on est obligé d'être polyvalent parce que sinon, comme Kevin Mayer, s'il est mauvais dans une épreuve, forcément, à partir de là, il perd énormément de points. Dans les équipes interclubs, les décathloniens sont beaucoup cherchés parce que ça permet de pouvoir, en fait, à part en demi-fond, où les décathloniens de demi-fond sont quand même un peu plus faibles. Mais sur les 9 autres épreuves, ils sont très forts, donc c'est toujours un plus à ce niveau-là.
Donc, à ce propos, Eric et Clément, tout à l'heure, on vous parliez des étudiants. Est-ce que, au niveau des plus jeunes, vous avez des passerelles avec des établissements scolaires à Angoulême et alentour?
Alors, depuis quelques années, nous avons une section sportive au LISA, au lycée du son et de l'image à Angoulême. Et depuis cette année, nous avons au collège de Pierre Baudet une section athlétisme pour les 6e et 5e.
Mais, bon, en tout cas, l'avantage, c'est que ces deux établissements sont pas très loin de votre stade.
Mais ils sont à côté, ils sont à 200 mètres.
Ouais. Et qu'est-ce que ça donne, donc, en termes de remontée?
Pour l'instant, pas trop.
Pour la section collège, c'est un peu tôt pour le dire.
C'est un peu tôt pour la section collège, parce que ça vient d'oublier il y a un an et demi.
Pour la section lycée, par contre, oui. c'est très positif. Ouais. Julie sort de la section lycée, Meta et Lisa aussi. Donc voilà, on a des bons entraîneurs qui sont sur la section avec Nicolas Grimaud et Romain Chalard qui sont salariés au club et Julien Le Boudec qui est salarié du comité. Donc voilà, maintenant il y a encore 3-4 ans, il y avait de la place. Maintenant, ils refusent les athlètes.
Donc, voilà, et le niveau a progressé.
Le niveau a progressé, ils refusent les athlètes, il y a le côté sportif, mais aussi le côté scolaire. Voilà, ils regardent le dossier scolaire. Et en fonction des deux, ben voilà, ils sont obligés de faire des choix. Et donc ça prouve que voilà, que ça marche bien, que ça fonctionne.
Oui, puis dans le futur, ce qui est intéressant aussi, c'est que au final, d'ajouter le collège, ça permet d'avoir les athlètes encore plus longtemps.
Oui, tout à fait. C'est une volonté du club de créer ça. C'est avec l'aide du comité Charente Athlétisme que nous l'avons mise en place. Et je crois que c'est un plus pour le club.
C'est une section qui est réservée aux athlètes du G2A ou des athlètes charentais qui sont licenciés dans d'autres clubs peuvent y prétendre aussi?
Alors, pour le collège, pour l'instant, c'est juste les athlètes du G2A. Le LISA, la section sportive au LISA, c'est des athlètes de Limoges,
de toute la Charente.
Toute la Charente et toute la région.
Il y a une athlète de Limoges, il y a un athlète de Niort.
D'accord, mais ces athlètes, quand ils viennent du coup dans votre section,
ils restent dans leur club.
Ah oui, d'accord, ok, c'était ma question.
Ils s'entraînent avec les entraîneurs de la section et les entraîneurs.
Ils s'entraînent avec vous, avec à Angoulême, mais ils restent licenciés dans leur propre club.
Voilà, mais on a qui s'entraînent avec les entraîneurs du G2A, parce que du coup, il y a par exemple à la section, il n'y a pas d'entraîneur vraiment de demi-fond, donc il y a 3-4 demi-fondeurs qui s'entraînent avec un autre entraîneur, Alain Bachelier, du G2A, quoi, le mardi et le soir.
Pour en revenir sur les interclubs, ça se passe toujours sur deux tours?
Oui, c'est ça. Le premier tour ne compte pas. Enfin, il ne sert à rien. Ça permet de former les équipes. Il y a un nombre minimum de points à faire cette année quand même, parce que cette année, il n'y a même pas de nombre minimum. Donc,
le premier tour, c'est globalement les clubs du Poitou-Charentes qui sont avec vous, non?
L'année dernière, c'était ça, oui.
L'année dernière, c'était ça.
Mais là, je suis pas sûr que ça a été encore fait. Et pour le second tour, par contre, on sera à Nantes.
Oui.
Et on affrontera, il y a les deux clubs de Nantes, il y a Brest, Angers. Voilà, c'est un peu au club de l'année dernière.
L'athlétisme, c'est toujours compliqué parce que les divisions, il y a des chiffres et il y a des lettres en même temps. Alors, du coup, je peux sûrement dire MBT, mais vous êtes toujours en N1A ou N1B?
N1B.
Ouais. En gros, c'est la troisième division.
Ouais.
Alors, ça, c'est aussi une volonté du club de ne pas faire le yo-yo comme certains clubs le font. Et on aurait eu la possibilité de monter, mais pour des questions financières, c'était pas très solvable, pas très facile.
Oui, parce qu'il y avait déjà eu une accession, il me semble, il y a quelques années, vous étiez monté dans la division où vous êtes actuellement, ou vous avez fait l'ascenseur, entre guillemets?
Oui, nous étions montés une année en N1A.
En 2019, on était en N1A, mais j'étais pas encore au club, mais on est descendu en 2019.
Oui, voilà, c'est ça.
On a fait un zéro, justement, un faux départ aux 100 mètres. Et juste sur ça, c'est ça, jouer la descente.
Il y a un gap important entre la N1A et la N1B?
Alors, à la base, on va dire que oui. Après 3 années de Covid, un peu moins, parce que du coup, le Covid a beaucoup changé, puisqu'on s'est retrouvé en fait avec des clubs en N1A qui avaient énormément régressé, et à l'inverse, des clubs de N1B qui avaient énormément progressé. Voilà, parce que entre 2019 et du coup 2022, il y a eu 3 années, et en 3 années, sans compétition interclub, énormément de choses peuvent se passer. Et voilà, ils ont retrouvé avec des clubs de 1A, qui on a fait 54 000 points, il y a des clubs de 1A qui ont fait 50, 51 000 points.
Ah oui.
Là, c'est quelque chose qui à long terme, en fait, dans 2 ans, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de sanitaire, on n'aura plus de clubs en N1, parce que si des années sur l'autre, on ne peut pas régresser autant, quoi.
Et puis, j'imagine qu'au fur et à mesure des montées et des descentes, ça va se réguler.
Voilà, c'est ça, exactement.
Oui.
Sachant que, donc, la N1A, donc, c'est la deuxième division, et la N1B, la troisième, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et la première, comment ça s'appelle? La
D2. Élite.
Enfin, ce que je trouvais bizarre, l'athlétisme, alors, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais c'est qu'au final, en N1B, par exemple, il y avait, sur le deuxième tour, il y avait deux groupes et il fallait attendre que l'autre groupe, enfin, il y avait deux groupes pour finalement, après, on prenait donc les totaux de chaque équipe et puis on voyait qui termine dans les premiers. Mais ce que je trouvais bizarre finalement, c'est que toutes les équipes n'étaient pas sur le même endroit. Alors je sais qu'il y avait que 8 couloirs dans une piste d'athlétisme, mais déjà, est-ce que j'ai dit une bêtise ou est-ce que c'était vraiment ça?
Oui, non, il y a des poules. Oui, il y a 4 poules de 8.
Après, parce que, je dirais peut-être qu'il y a une poule où il peut y avoir des conditions météo un peu différentes. Hein, c'est...
Oui. Alors là, il y a des années où ils regardaient les totaux. Là, cette année, il me semble que c'était juste les deux premiers de chaque poule qui. Ou le premier de chaque poule qui montait, je ne sais plus. Il me semble que c'était le premier de chaque poule qui montait cette année.
D'accord, ouais. En tout cas, c'était juste pour ça. C'était parce que le fait qu'il y ait des conditions météo peut-être un peu différentes dans. Qu'on soit, je sais pas, à Strasbourg ou à Pau, ça pouvait peut-être fausser quelques performances et donc changer un peu les points.
Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait sixième club dans le même B, mais peut-être on a payé les mêmes conditions que le club dans d'autres poules. Donc, on sait jamais. Surtout, ce qui peut jouer, c'est le vent aussi. Voilà, il suffit sur les 100, 200 mètres et les vents de face. Bah, forcément, on dirait que ça fait vite 100 points de moins par épreuve, quoi. Donc, ça peut vite diminuer. Mais après, là-dessus, ouais, enfin, il n'y a pas trop le choix, on va dire, parce qu'après, ça fait vraiment faire pour des clubs. Si on fait par poule, on se retrouve avec les clubs qui sont 60e français, qui font qui se retrouvent à faire des énormes déplacements, donc
qui
n'ont pas non plus énormément de moyens. Donc, voilà, un club comme le Pays Basque Athlétisme qui est peut-être en N1B, fin fond de N1B, s'il se retrouve à devoir affronter Mulhouse, ça fait.
Oui. Ça leur fait traverser la France. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a que 8 couloirs dans une piste athlée, donc ça ferait que des poules de 8. Donc
c'est ça.
Poules de 8 dans toute la France, ça ferait des très très longs déplacements effectivement. D'ailleurs, vos ambitions pour cette année, donc on parle en termes de points, c'est toujours dans les d'habitude c'est généralement 54 000, donc là vous avez rehaussé un peu le curseur.
Ouais, on a fait 54 909 là l'année dernière et au vu des résultats et de notre recrutement, je pense qu'on peut viser les 56 000.
Ce qui vous ferait du coup par rapport aux autres clubs, ce qui vous ferait bon après c'est dur de se projeter par rapport aux autres clubs parce que peut-être que eux aussi ont recruté mais ça vous ferait une progression.
On va dire que nous là on a commencé à parler du projet club, justement on s'est plus fixé les objectifs de points, comme ça dépend entre guillemets que de nous et après en gros on se dit objectifs de points, si ça nous fait monter ça nous fera monter, si ça nous fait pas monter ça ne fera pas monter. Voilà, on sait que si on reste dans ces ordres là ça ne descendra pas. Ça c'est clair et net, on ne veut pas descendre.
Oui, vaut mieux. Enfin, le minimum syndical entre guillemets, c'est de rester en N1B.
Voilà, c'est d'être un bon club de N1B qui est crédible sur chaque tour interclub chaque année, quoi. Et voilà, de jouer devant dans les épreuves et tout, c'est toujours présent pour le club. Et si un jour ça nous fait monter, on prendra. Mais on va dire qu'on va pas non plus se prendre la tête et dépenser des sommes astronomiques pour jouer la montée absolument.
Vas-y, Eric,
je pense aussi que nous, G2A, on a évolué en qualité et en résultat, mais les autres clubs également.
Donc, tout à fait.
On va remonter les totaux, tous vont remonter. Donc, vaut mieux être un bon N1A, un N1B que être à la traîne. Quoi.
Vous écoutez Culture Sport, c'est sur Attitude 98.3, 90.7. www.attitudefm.com, c'est Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h, 20h30, nous retrouvons nos invités du G2A qui répondent aux questions de Christian.
Pour terminer sur les interclubs, pardon, j'avais deux questions. La première, est-ce qu'on peut surclasser des athlètes? Par exemple, est-ce qu'une cadette peut faire des interclubs avec vous? On parlait tout à l'heure de vos cadettes comme Lisa Blanc ou comme Etatumba qui sont vraiment de très bonne qualité. Est-ce qu'elles peuvent faire déjà les interclubs à leur âge?
Oui, c'est même pas un surclassement, c'est complètement légal. Donc, en gros, c'est juste, elles ont juste des petites... barrière au niveau, par exemple, si Meta fait les cadettes, s'ils font plus de 200 mètres, donc un 400 ou un 400 mètres ou au-dessus, elles ne peuvent pas faire le 4x400 derrière.
Bon. D'accord, ok.
Il y a un petit frein, donc si on veut mettre Lisa sur le 4x400, il faut qu'elle fasse qu'un 200 mètres dans la journée. Et c'est déjà arrivé justement qu'il y ait une polémique sur ça, je pense à Toulouse. Une année, ils avaient mis un cadet sur le 4x400 qui avait déjà fait un 800 mètres dans la journée. Et du coup, ils se sont fait disqualifier du 4x400 mètres et ils devaient monter, et du coup, ils ne sont pas montés.
Ah oui, donc il faut faire vraiment attention.
Attention.
Ma deuxième question, c'était avec les points. Il y a donc chaque performance vaut des points, donc il y a des 1000 et quelques points. Est-ce qu'il y a des disciplines où c'est plus handicapant de ne pas avoir entre guillemets un bon athlète?
Les lancers, par exemple, les lancers, ça marque vraiment pas beaucoup de points. Et en fait, on se retrouve à avoir des écarts énormes en lancers parce que en gros, si on a un athlète élite en lancers, on va marquer 1100, 1200 points comme sur les autres épreuves. Mais voilà, alors que des athlètes entre guillemets de bons athlètes qui vont au championnat de France cadet junior en lancer, en fait avec le poids adulte vont marquer 500 600 points. En fait, on se retrouve avec un, pour donner une idée, au javelot des bons athlètes français vont au disque par exemple, les bons athlètes français vont lancer à 55 mètres et nous aux interclubs, c'est des athlètes qui vont lancer à 30 mètres, donc quasiment la moitié. Donc forcément, ça fait vite un écart de points énorme à la table, alors que par exemple sur des épreuves comme le triple saut, des choses comme ça, c'est impossible de faire la moitié de distance quasiment que par rapport à un athlète élite. Il y a beaucoup moins d'écart.
Oui, tout à fait. Ou alors sur 100 mètres, ça joue sur des centièmes. Ou...
Voilà,
oui.
C'est ça. Même si la table est adaptée, ben, c'est vrai que sur le lancer, ça marque très peu. Et c'est des disciplines où, malgré tout, il y a quand même un manque de densité. Voilà, on se retrouve notamment par rapport au demi-fond avec des athlètes à plus de 23 ans qui pratiquent beaucoup moins. Voilà, on a des athlètes en les demi-fondeurs, tout ce qui course. Là, quand on a 25-30 ans, vous connaissez énormément de personnes de 30 ans qui font du 10 km et tout. Les personnes de 30 ans qui font du poids à petit niveau, ça se retrouve beaucoup moins. Voilà, chez les jeunes, c'est quasiment aussi dense. Par contre, quand on arrive en senior,
forcément, ça se rétrécit. Hein.
Ça se rétrécit. Oui.
C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, lorsqu'on voit tous vos meetings du G2R, on voit souvent les mêmes têtes au lancer du poids.
Oui, mais c'est ça. C'est des athlètes de très bon niveau qui sont impliqués dans leur pratique, tout ça. Et du coup, qui continuent, qui sont peut-être, on ne les connaît pas tous personnellement, mais voilà, qui adaptent leur emploi du temps, leur travail pour pouvoir s'entraîner et être performant, quoi. Parce que pour avoir un haut niveau et être présent sur ces épreuves, ça demande beaucoup d'investissement.
Tout à fait. Surtout au niveau des entraînements et tout, c'est.
Et avoir un travail à 35, 40 heures à côté, des fois, ça peut être compliqué. Il faut faire des sacrifices entre guillemets, passer à 25 heures pour pouvoir plus s'entraîner, essayer de compenser avec des primes de résultats, etc.
Et c'est très compliqué d'être à tête de haut niveau en France. Au niveau, faut avoir un travail. Donc, comme dit Clément, soit 25 heures pour profiter un peu du temps libre pour s'entraîner, et donc courir les meetings pour avoir un petit peu d'argent pour compléter les salaires.
Oui, tout à fait.
C'est très 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 compliqué.
Est-ce que vous arrivez à parfois trouver un travail pour des athlètes qui souhaitent s'inscrire ou qui prennent une licence au G2A?
Ça, c'est notre gros problème. C'est qu'on a une commission suivie des athlètes qui serait en charge de régler ce genre de choses. Mais à Angoulême, c'est très très difficile. On y arrive une fois sur 10.
C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué à faire, mais on va dire que c'est quelque chose, qui est compliqué à trouver, parce qu'il faut avoir le nom de l'athlète, il faut qu'on nous dise dans quoi il travaille, il faut trouver un poste qui est libre à ce moment-là. Donc ça, c'est très rare aussi. Donc ça peut arriver des fois, mais on a des athlètes même qui demandent des fois un travail, qu'est-ce qui les ferait venir. Ce sera un travail dans la ville et du coup, il pourrait signer au club. Donc, on essaye de trouver. Voilà, si ça tombe, on a un athlète qui est sur en Dordogne, qui est menuisier. Et là, je suis allé voir un partenaire de menuiserie et il a un poste libre. Donc, je lui ai proposé. C'est plus des fois des coups de bol aussi. Ouais. Ça correspond au moment venu.
Faut être au bon moment, à la bonne place, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi, quoi. Mais...
Oui, et puis après, il y a le logement. Et puis, des fois, il y a les copines qu'il faut intégrer aussi. Donc, c'est pas simple.
Il faut des contacts aussi.
Il faut des contacts aussi. Donc, il faut un réseau.
Mais ça peut être quelque chose pour le développement et pour compenser justement le fait qu'on soit moins une ville étudiante que les autres. Ça peut être un axe de développement, de travail. On peut compenser justement à ce niveau-là, parce que on peut s'appuyer sur par rapport à d'autres clubs justement. Enfin, je pense en Nouvelle-Aquitaine et moi par exemple, je pense à Limoges, venant de Limoges. On peut s'appuyer sur beaucoup de partenaires privés, que d'autres clubs n'ont pas, et du coup ça peut être un plus à ce niveau-là.
D'où l'importance pour vous d'avoir des événements comme les foulées et le meeting. Ça peut aussi permettre de développer le partenariat.
Oui, exactement. De toute façon, quand on fait notre partenaire, quand on démarche des partenaires privés, on a trois axes. On a l'axe club, l'axe foulée et l'axe meeting. Voilà, c'est trois choses différentes qu'on différencie. Et après, forcément, quand les contreparties club, on en a, mais ça permet de développer et de proposer d'autres choses aux partenaires différents. Selon sa sensibilité, on a plusieurs choses qui pourront lui correspondre.
Et donc, la question de Didier avait un rapport forcément avec le mercato. Est-ce qu'on peut considérer que, même si j'ai bien compris qu'un athlète pouvait s'engager avec vous une semaine avant les interclubs, mais est-ce que potentiellement les recrues c'est fini, ou potentiellement il y a encore des axes de travail pour faire venir certains profils d'athlètes?
Non, là, on...
Avec notre trésorière, on avait dit qu'on arrêtait, on avait assez dépensé. Et après, ça va être au cas par cas.
Au cas par cas. On va dire, c'est vraiment sur une épreuve, on a un trou, quoi. Voilà. Là, je pense à la marche athlétique masculine. On a un trou à ce niveau-là. Donc là, dans l'idée, on prendrait si on trouvait, mais sur le reste, on est.
Bon, alors, faut que Clément aille s'inscrire sur un meeting de marche et qu'il sympathise avec le meilleur du peloton pour le ramener sur Angoulême.
Oui, non, mais ça, je ne me sacrifierai pas à ce point-là pour le ou alors je m'inscris, mais je prends pas le départ, quoi.
En parlant de toi, Clément, du coup, Déjà, parle-nous de ce marathon, parce que finalement, c'est pas anodin de courir un marathon. Est-ce que c'était ton premier marathon? Comment tu l'as vécu? Et surtout, comment se passe la récupération?
Alors, c'était mon quatrième marathon. C'était la troisième fois que j'allais à Valence. Donc, la première fois, j'avais terminé en 2h22. La deuxième fois, j'avais abandonné. Et après, il y a eu deux éditions Covid. Donc là, j'y suis revenu cette année. Et ça s'est plutôt bien passé. Je bats mon record. J'étais parti pour faire moins de 2h18. Je m'étais fixé ça comme objectif, sans trop savoir, parce que la préparation a été un peu différente de celle de mes autres préparations, et notamment de celle à 2h22. J'ai changé un peu d'axe. J'ai préféré, ma préparation était moins aboutie, on va dire. Elle était moins costaud, mais plus pertinente, où j'ai joué plus sur la fraîcheur. Voilà, je pense que quand j'avais fait 2h22, j'étais arrivé fatigué au marathon parce que j'avais fait une trop grosse prépa peut-être. Donc là, à l'inverse, j'ai voulu arriver avec plus de fraîcheur pour être plus dynamique physiquement, mais aussi dans la tête, voilà, parce que j'apporte beaucoup maintenant au psychologique. Et du coup, je suis arrivé bien au marathon et je suis satisfait du chrono final par rapport à mes ambitions avant, mais un peu déçu par rapport à comment s'est déroulée la course. Parce que voilà, jusqu'au 31, je suis sur des bases de 2h14.00.
Ah oui.
Je me sentais relativement bien jusqu'au 28. Donc jusqu'au 26e, on demande, pour moi ça va faire moins de 2h15, quoi. Donc au final, à la fin, faire de 17h58, c'est pas décevant, mais je me dis il y avait mieux à faire, quoi.
Ah, tu mets quand même 5 minutes à ton record, c'est pas mal déjà.
Ouais, alors je mets 4 minutes 20, en sachant que à l'époque j'avais pas les nouvelles chaussures. Donc en soi, la progression réelle est de 1 minute 32 minutes, je pense.
D'accord.
Voilà, parce que là j'avais les nouvelles chaussures carbone qui aident quand même bien, mais voilà, malgré tout c'est satisfaisant, et c'est
une progression en tout cas par rapport à
Et après, c'est plus des problèmes musculaires qu'il faut que je résous, parce que voilà, c'est la charge mollet. En soi, je me sens capable de tenir la dure de 2h15 jusqu'à l'arrivée, mais le truc c'est que je charge musculairement, donc il va falloir avec mon préparateur physique Aurélien encore axé pour se renforcer au niveau des mollets et être plus solide pour éviter les crampes.
Et le marathon, du coup, c'est plus pour toi un plaisir personnel, ou c'est quelque chose que t'aimerais développer, parce que t'as un super niveau de demi-fondeur, donc est-ce que du coup j'imagine que progresser en marathon, peut-être que ça ferait que tes performances en demi-fond stagneraient. Enfin, comment tu vois un peu la suite, notamment cette saison?
Non, mais en fait, au contraire, avec l'arrivée des chaussures, le marathon m'a un peu moins motivé. J'y voyais moins d'intérêt, parce que du coup, les chaussures faisaient une partie du travail. Mais je me suis rendu compte que ma meilleure saison sportive aussi a été ma saison après mon record de 2h22. Donc je me suis rendu compte que là, ça permet de faire une grosse prépa foncière. Justement pendant la période d'automne-hiver, oui. Qui me sera extrêmement bénéfique ensuite sur la période de mai à mars à juin. Donc l'idée là, si je prépare un marathon, mais l'idée c'était de
c'était vraiment un investissement pour plus tard au final.
Voilà, que le marathon me motive à m'entraîner et à faire du tout. Et au final, dans la prépa, c'est pas vraiment un plaisir le marathon. Je pense que je suis mieux pour du 10 semi. Dans la prépa, quand j'arrive à 20-25 km, je trouve ça un peu long en fait. Et monotone, donc la prépa était, j'ai trouvé ça assez dur. J'ai pas pris non plus énormément, enfin moins de plaisir que j'aurais cru, et du coup je l'ai pris vraiment comme une source de travail pour le reste de la saison.
Clément, ton temps réalisé à ce marathon, ça te place à quel niveau au plan régional?
Temps régional, il y a deux Bordelais qui ont fait mieux dans la même course, donc d'accord. Je pense que je dirais troisième.
Ça satisfait-il?
Oui, non, c'est satisfaisant. Et après, au niveau français, ça doit mettre 16e.
C'est quand même pas mal. Et puis, si les 14 premiers se blessent, on te prend pour les mondiaux, du coup.
je mise sur ça, à vrai dire.
Non, plus sérieusement, sur ça, du coup, sur 2023, donc forcément, j'imagine que tu as coché les interclubs, et puis donc la qualification pour les France Elite.
Pour 2023, j'ai coché la saison de cross, déjà, notamment avec l'équipe. On va dire que les objectifs vont être peut-être un peu plus axés collectifs cette année qu'individuels. Voilà, parce que aussi, il faut être objectif et se rendre compte que par rapport à mon niveau, je peux jouer des médailles en championnat de France sur un semi-marathon, un 10K, mais voilà, dans un grand jour, etc. Et que si je veux des médailles en championnat de France, faut que j'aille chercher collectivement. Et on est plusieurs à s'en être rendu compte. Donc c'est pour ça qu'on a cherché aussi à se regrouper dans un club, voilà, parce que maintenant moi j'ai la chance d'être en 29.07, donc je suis proche, mais d'autres athlètes justement comme Thomas ou Antoine qui sont en 29.30, 29.45, 30.00, individuellement on peut se dire qu'on est trop juste pour faire des médailles. Et notamment moi, en France de cross, j'ai aucune chance d'avoir une médaille individuellement, mais j'ai le niveau par contre collectivement. En France de cross, si on a 4 athlètes qui font top 40, on peut gagner les championnats de France de cross. Et moi, je fais 30e, donc si j'arrive à former au club, à créer une dynamique au club, où on peut être 4 athlètes proches de ce niveau-là, Mais on pourrait jouer une médaille en championnat de France de cross et ce serait quand même un aboutissement pour un mi-fondeur. Faire une médaille en France de cross, ça reste un aboutissement. Donc là, l'idée, bon, donc sportivement, personnellement, ce serait les performances en France de cross le 12 mars. Ensuite, au France de 10 km le 26 mars, où là, on va engager toute l'équipe. Et au vu des résultats de l'année dernière, si on prend un chrono moyen pour nos 8 coureurs, un chrono relativement normal, par rapport à l'année dernière, on pourrait faire 3e. D'après, ça va dépendre de la forme du jour, etc. Mais on envisage de faire une médaille au France de 10 km le 26 mars. Ensuite, là, ce sera vraiment individuel. Ce sera le 22 avril à passer les France de 10 000 mètres. Là, je l'ai vraiment coché dans la saison. Où, là, j'avais déjà fait une médaille il y a 3 ans, 4 ans. Et du coup, en 2019, donc ça fera 4 ans. Donc l'idée, ce serait, pourquoi pas, selon le plateau, de se rapprocher aussi. Parce qu'on reste en demi-fond sensible au plateau. Voilà, aux athlètes qui sont présents, parce que autant quand on fait les championnats de France de triple saut en élite, on peut être sûr que les 10 meilleurs français sont là. En demi-fond, on fait les championnats de France de 10 000, ben en fait, il y a moins de, il y a beaucoup de temps. Un demi-fondeur peut faire les championnats de France de 10 km, de cross, de 5 000, de 10 000, de semi-marathon, de 5 km. Donc en fait, ben, ils sont pas tous présents sur les mêmes objectifs. Un Jimmy Gressier, il va viser la qualif au championnat du monde sur 10 000 mètres, il va pas venir aux France de 10 000 mètres. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt, il va préférer aller chercher un gros meeting en Belgique ou en Hollande pour aller chercher 27-15 plutôt que d'aller s'embêter à faire un 10 000 mètres tout seul au France de 10 000 le 22 avril. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. Donc ça ouvre plus de portes en demi-fond pour avoir des médailles. Donc là-dessus, ça dépendra du plateau pour pouvoir ou non jouer une médaille.
J'aurais voulu évoquer un sujet qu'on n'a pas évoqué et dont on pourrait parler pendant encore une heure, mais c'est l'entraînement. J'imagine que vous avez des groupes d'entraînement. Comment ça s'organise finalement l'entraînement G2A? J'imagine qu'il y a des groupes lancés, courses, sprint, demi-fond. Enfin, comment vous avez dispatché un peu la chose avec vos, notamment oui, vos entraîneurs qui sont au club licenciés, mais en plus, ils sont au club, quoi.
C'est par atelier, quoi, en fait.
Oui, tout à fait. Nous avons des entraîneurs bénévoles qui organisent les entraînements toute la semaine. Nous avons déjà des entraînements tous les jours de la semaine, particulièrement le mardi et le vendredi, là, le stade est archi complet. Donc nous avons trois groupes de running, dont un qui va s'entraîner sur un autre stade à Saint-Cybard ou à l'extérieur, parce que on a trop de monde sur le stade. Autrement, on a des lanceurs de poids, de javelot, enfin toutes les épreuves sont présentées. Mais, à savoir que oui, sur une soirée d'entraînement, nous sommes près de 200, 300 des fois sur le stade.
Ça va dépendre de la météo. Hein.
Oui.
Eric, Clément, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter avant de conclure?
Oui, après on a aussi, on a parlé des EA Poussins qui sont très dynamiques. Voilà, on a beaucoup de APO, des jeunes athlètes présents qui, avec un entraînement bien structuré sur plusieurs sites de ruelles, Saint-Cybard et ma campagne. Et on a aussi, on va mettre en avant notre partie Apriforme Santé. Voilà, avec des cours de marche nordique, des cours de remise en forme, parce que il faut savoir que le G2A, c'est aussi le sportif de haut niveau, etc. Mais c'est pas que ça. On essaye de se développer sur d'autres choses et de proposer pour tous les publics, en fait, des pratiques adaptées. Voilà, la marche nordique, c'est quelque chose qui est très sympa à faire. On change d'endroit régulièrement et tout. Et on a un coach diplômé, notre salarié Sophie, qui fait du très bon travail au niveau de la marche nordique, mais aussi au niveau de la Cléforme Santé, de la remise en forme. Et comme l'a dit Eric tout à l'heure, on a aussi des entraîneurs running pour tous les niveaux. Voilà, on a Christophe Moreau qui a un groupe assez conséquent et selon les jours, on a un entraînement le vendredi où c'est vraiment pour les débutants. C'est adapté, c'est un entraînement très très cool et ça permet de découvrir la discipline sans se prendre la tête par rapport à son niveau. Il faut vraiment pas avoir peur si vous souhaitez nous rejoindre pour essayer. On fait toujours, pour toutes les disciplines, quel que soit le groupe d'entraînement, on fait deux séances d'essai avant de prendre la licence. Donc voilà, vous pouvez venir découvrir sur deux entraînements, voir comment ça se passe, ça n'engage absolument à rien. Et voilà.
Donc on vous souhaite en cette période de vœux le meilleur, donc pour l'année qui vient, plein de bonnes choses, plein de réussites. Et réussite et résultats, ça commence par R. Parfait. Merci messieurs, merci à vous.
Merci à vous.
Donc on vous dit à très très bientôt et on prendra de vos nouvelles dans le courant de l'année prochaine. D'accord?
Okay. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.